Lutte kurde, ici et ailleurs, le podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lutte kurde. Aujourd'hui, nous allons parler de genre et militantisme au Kurdistan d'Iran. Et pour ce faire, nous recevons Fatemeh Karimi. Bonjour.
Bonjour.
Donc, je vais déjà vous présenter. Donc, vous êtes kurde d'Iran. Vous êtes installée en France depuis 2013. Vous êtes titulaire d'un doctorat en sociologie de l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS. Et vos recherches portent sur la violence faite aux femmes, les rapports sociaux de sexe et l'ethnicité. Vous avez déjà publié 2 livres en farsi sur les mutilations génitales féminines en 2010 et sur la polygamie en 2014 dans les régions kurdes d'Iran. Aujourd'hui, on vous reçoit pour votre ouvrage qui a été publié par L'Harmattan et qui s'intitule donc « Genre et militantisme au Kurdistan d'Iran, les femmes kurdes du Komala de 1979 à 1991 ». Est-ce que, pour commencer, vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est que le Komala ?
Komala, c'était une organisation d'extrême gauche de Kurdistan d'Iran. Avant la révolution, c'était un petit groupe clandestin qui commençait leurs activités contre le régime de Pahlavi avant la révolution. Mais quelques jours après la victoire de la révolution de 1979, ce groupe, il se transformait en un parti politique, une organisation politique d'extrême gauche. Et voilà, ils ont officiellement apparu sur la scène politique du Kurdistan d'Iran. Iranienne. Jusqu'à 1983, il s'est considéré comme une organisation politique kurde, mais à partir de cette date, il s'est, avec une autre petite partie politique iranienne, ils ont formé le Parti communiste d'Iran. Après cette alliance, le Komala, ancien Komala, il restait comme le branche armée et de cette organisation, et l'autre branche iranienne, il est considéré comme la branche théorique. Donc voilà, on met parmi les Kurdes, on le connaît que sur le nom de Komala. C'est pour ça, dans mon livre aussi, toujours j'ai utilisé le nom de Komala, pas le Parti communiste d'Iran.
Alors, vous avez circonscrit votre travail sur la période 1979-1991. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ces dates-là se sont imposées à vous pour mener votre recherche?
Parce que cette période, c'est le sommet des activités politiques de cette organisation. Après la révolution de 1979, c'était une occasion en or pour les Kurdes, et surtout pour le Komala. Donc, il a apparu tout de suite, quelques jours après la révolution, comme une organisation d'extrême gauche, surtout pour les jeunes. Et pendant cette période de 10 ans, c'était le sommet des activités de Komala. Malheureusement, à la fin des années 80, donc il y avait une défaite au niveau politique et armé pour le Komala, et le Komala, il a vécu sa première division au sein de cette organisation, et même aujourd'hui on a plusieurs branches de cette organisation. C'est pourquoi moi je me suis focalisée que sur cette période où les femmes, elles étaient très actives au sein de cette organisation.
Alors, pendant la période que vous avez étudiée, quels étaient les ennemis principaux du Komala?
Pendant cette période, Komala, elle a été apparue sur le scène politique comme une organisation d'extrême gauche kurde. Donc, en plus de la question de classe sociale, la question du kurde en tant qu'une minorité ethnique en Iran, c'était très importante. Donc, avec un autre parti politique kurde qui s'appelle PDKI, Parti démocratique du Kurdistan d'Iran, ils ont fait une alliance contre le nouveau régime. Parce que quelques jours après la révolution de 1979, ils ont dit que c'est la meilleure période pour revendiquer les demandes culturelles et politiques des Kurdes. C'est pourquoi, dès le début, ils ont commencé avec les négociations avec le nouveau régime islamiste. Mais malheureusement, dès le début, ces revendications, ils ont été considérées comme un signe de séparatisme. C'est pourquoi, dès le début, le nouveau régime, il a attaqué le Kurdistan deux fois, et donc le Comala, voilà, il était obligé finalement d'entrer dans une période de lutte armée contre le régime iranien. Mais malheureusement, quelques années plus tard, on avait un conflit interne au sein de des Kurdes, au sein de la société kurde, des partis politiques kurdes. Donc, on avait une autre lutte entre le Comala et le PDK, et aussi malheureusement pas mal de peshmerga. Ils ont perdu la vie pendant cette période.
Alors c'est vrai que moi qui découvrais ce sujet, j'étais très étonnée de voir à quel point effectivement la guerre n'était pas juste contre les forces du régime, mais aussi en interne avec cette autre partie pro-kurde, et que finalement sur les dernières années du Comala, il y avait quasiment autant de morts qui étaient dues aux affrontements avec le gouvernement que de morts dues aux affrontements avec le PDKI.
Malheureusement, toujours on avait ce genre d'histoire, mais les Kurdes toujours, voilà, ils voulaient cacher ces histoires. Mais quand on parle sur la question des femmes, vraiment, moi je voulais savoir, moi aussi, comme on est Kurde d'Iran, j'avais entendu beaucoup de choses sur ces histoires, mais vraiment c'était très vague. Je savais pas qu'est-ce qui se passe, et surtout sur la question des femmes, c'était quoi l'influence de ce conflit interne. C'est pourquoi vraiment je voulais pas faire une censure ou cacher quelque chose. J'ai ce que j'ai entendu, j'ai parlé dans ce livre. C'est pourquoi c'est très intéressant, et ça peut être un exemplaire pour les partis politiques kurdes pour parler de ces histoires, sinon on le répète toujours.
Alors, la présence des femmes, justement, dans ce parti reste assez méconnue. Vous utilisez le terme de double exclusion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette invisibilisation dans la mémoire collective, à quoi elle est due ?
Moi, depuis 2004, je travaille sur la question des femmes kurdes en Iran. Et bien sûr, je connais l'histoire de d'autres femmes kurdes au Kurdistan d'Irak, Kurdistan de Turquie, récemment au Kurdistan de Syrie. Ils ont bien médiatisé. Même si avant les femmes en Syrie, vraiment dès le début, moi j'ai entendu beaucoup sur les, par exemple, on avait deux figures très importantes du Kurdistan irakien. Tout d'abord Leyla Ghassem, qui a été exécutée par le régime Baas en Irak, et après on avait une figure de femme peshmerga qui s'appelait Margaret, même si elle n'était pas kurde, mais elle était considérée comme la première femme peshmerga au Kurdistan d'Irak. Donc, on entendait beaucoup sur ces femmes, mais même si moi, je travaille sur la question des femmes kurdes en Iran, parce que moi, personnellement, je me suis focalisée sur les femmes kurdes en Iran, parce que vraiment assez marginalisées, les Kurdistan d'Iran, et surtout sur la question des femmes. C'est, même moi aussi, vraiment, j'avais rien entendu sur ces femmes. Même les femmes qui ont perdu la vie. Pour nous, dans la société kurde, parce que ça fait presque plus d'un siècle, plusieurs mouvements politiques. Toujours, on est en lutte contre les régimes iraniens, turcs, syriens, irakiens. C'est pourquoi les martyrs, les militants sont importants pour moi. Mais c'était bizarre pour moi. Pourquoi on connaît même pas une femme qui ont tombé en martyr pendant cette période. C'est pourquoi, voilà, ces femmes-là, ils étaient marginalisées au sein de la société kurde, dans le mémoire collectif des Kurdes, dans les écrits de cette période. Par exemple, en 2019, on avait une théoricienne politique kurde qui s'appelle Abbas Wali. Il a publié un livre sur les mouvements révolutionnaires kurdes pendant les années 80. Et c'était le sommet de la participation politique des femmes kurdes, surtout au sein de Comala. Et vraiment, moi, j'ai cherché partout. Juste une seule fois, il a parlé de la participation des femmes de Comala. Pas plus. Donc, tout d'abord au sein de la société kurde, dans les écrits politiques de cette période, et d'autres choses, si on regarde dans les recherches iraniennes, on a pas mal de recherches qui parlent sur la participation politique des femmes iraniennes pendant la révolution, après la révolution, pendant les années 80, mais aucun mot sur la participation politique des femmes kurdes. Dès qu'on parle des femmes kurdes en Iran, toujours on parle. Et ce qu'on voit, c'est plutôt, on voit les femmes kurdes en tant que victimes de la violence. La violence conjugale, crime d'honneur, les choses comme ça. mais jamais parlé sur la participation politique de ces femmes. C'est pourquoi doublement ils étaient marginalisés et surtout au sein de leur organisation elle-même aussi. Par exemple, on entend beaucoup sur les hommes héros, martyrs, toujours ils sont vivants dans le mémoire collective des Kurdes, mais aucune femme. C'est pourquoi pour moi aussi c'était très intéressant de travailler sur cette participation, parce que je me suis dit, si par exemple ces femmes ils disparaissent, on perd le mémoire de cette période. C'est pourquoi il y avait beaucoup de difficultés, mais j'ai dit voilà, ça va du coup, je dois commencer à faire la recherche sur ce sujet.
Et donc, double invisibilisation, puisque quand on parle des femmes en Iran, on parle uniquement des Iraniennes et pas des Kurdes. Et quand on parle des combattants kurdes, on parle uniquement des hommes et pas des femmes. Donc, ma question suivante s'impose, c'est face à cette double invisibilisation, comment vous avez procédé pour travailler? Comment vous avez pu trouver des sources? Et j'imagine, enfin, je le sais même, mais je voudrais que vous en parliez, que vous avez dû faire des recherches pour retrouver des personnes qui avaient participé, qui ont dû témoigner pour que vous ayez plus de matière, parce que les sources officielles n'étaient pas suffisantes.
Exactement. Dès le début, en 2013, moi, j'ai obtenu une bourse du gouvernement français par l'Institut kurde. Donc, je suis venue en France. Donc, tout d'abord, je connaissais pas du tout la langue française. J'ai commencé de zéro vraiment. Je peux dire ça. Et après, donc, en tant qu'une débutante pour apprendre le français, donc, j'étais obligée de commencer ma thèse. Donc, moi, je connaissais pas je peux choisir quel sujet parce que, en Iran, on est dans un monde très, très isolé. Quand j'étais en Iran, je pensais qu'il y a beaucoup de recherches sur les Iraniens, sur les Kurdes, sur les femmes, mais juste on est isolé parce qu'à l'époque, au niveau de réseaux sociaux aussi, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Donc moi, je pensais qu'il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup d'archives, juste on n'a pas accès. Donc, dès le début, j'ai dit, voilà, tout d'abord, je vais apprendre le français, comme le débutant, vraiment, passer composé, passer ça, voilà, les choses très, très présentes. Et après, j'ai dit, ça va aller, il y a beaucoup de recherches, il y a des archives. Et il y avait une femme iranienne qui a travaillé sur les Kurdes aussi, qui s'appelle Shahrzad Mujab. C'était une militante, une féministe marxiste iranienne. C'était elle qui m'a proposé de travailler sur ce sujet en disant que voilà, c'est un sujet inédit, il n'y a aucun travail, mais il y a des archives, vous pouvez travailler là-dessous. Donc moi, j'ai fait confiance à elle, je dis voilà, donc elle a dit il y a des recherches, il y a des sources, donc ça va, c'est pas très difficile. Mais malheureusement, parce qu'en Iran, je travaille sur la question de violence faite aux femmes. Ça n'a rien à voir avec la politique. Avec la langue française, j'étais obligée de changer mon domaine sur la politique, la participation politique des femmes kurdes. Donc, vraiment, ça m'a pris beaucoup de temps pour apprendre au niveau de théorie, pour définir le cas théorique, et pour définir les questions et comment je dois trouver ces femmes et les archives. C'est pourquoi tout d'abord, j'ai commencé parce que j'étais en train de lire en farsi, en kurde. J'ai commencé à apprendre le français. J'ai commencé à lire en français aussi sur les domaines théoriques parce que il y avait beaucoup de travail sur les femmes en Amérique latine, Algérie, partout. Donc, vraiment, si on effaçait le nom, moi, je pensais que je suis en train de lire sur les femmes kurdes parce qu'il y avait beaucoup d'expériences en commun. Mais malheureusement, quand j'ai commencé le source kurde, sur cette participation, des archives même au sein de cette organisation, j'ai rien trouvé. Et je suis allée à l'Institut kurde, j'ai contacté les anciennes militantes, les combattantes, peshmerga, mais ils ont dit c'était la guerre, on a tout laissé, et tout est dispersé, il y a rien de tout. Donc, le seul moyen pour moi, c'était faire l'entretien avec l'ancienne combattante, militante, peshmerga. Donc, j'ai trouvé une seule femme kurde de Komalé à Paris. C'était mon premier entretien. Donc, je dis, voilà, comme ça, je vais contacter d'autres femmes en Suède, en Allemagne, parce que la plupart de ces le militants de cette organisation, à la fin des années 80, ils ont été exilés en Europe, surtout en Suède et en Allemagne. Donc, par mail, par téléphone, j'ai contacté plusieurs femmes. Au début, ils ont dit oui, d'accord, c'est pas, on peut parler ensemble, mais ils me connaissaient pas. Ils avaient raison aussi. Elle pensait que voilà, je suis qui? Parce que moi, je fréquentais à l'époque, 2019, moi, j'ai obtenu le statut de comment dire, réfugié politique. Mais à l'époque, je fréquentais l'Iran. Donc, pour elle aussi, c'était une grande question. Moi, je suis qui? Comment ils peuvent faire confiance en moi? Donc, pour le plusieurs rendez-vous, je disais, voilà, demain, on peut parler en Skype, sur le Skype ou voilà, comme ça. Mais ils annulaient. C'est pour ça que je me suis dit, c'est pas possible comme ça. Donc, j'ai commencé à trouver les moyens intermédiaires, les gens de confiance. Par exemple, en Suède, j'ai trouvé le frère d'une ancienne dirigeante de Comalé, parce que dans le livre aussi, j'en ai parlé, Kak Fouad. Donc, c'est son frère qui l'a dit, voilà, tu peux venir chez nous. Et moi, à travers moi, je peux trouver des contacts pour toi. Comme ça, ils font confiance à lui. Et comme ça, moi aussi, finalement, je peux attirer leur confiance. Donc, j'ai voyagé en Suède en 2015. J'ai trouvé plusieurs femmes grâce à cette ancienne pitch market de Comalé. Donc, j'ai voyagé dans plusieurs villes. Et comme ça, finalement, j'ai réussi de faire plus 47 entretiens, plutôt avec les femmes, 37 femmes et 10 ans. C'est pourquoi, voilà, le base de cette recherche s'est focalisée sur les entretiens. Vraiment, j'ai rien trouvé au niveau d'archives.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les femmes, à l'époque, décident de s'engager au sein du Comalé et pas au sein du PDKI ou d'autres organisations politiques? Comment elles opèrent ce choix-là?
La recherche que je fais pour la première partie, ça montre que les femmes, elles étaient doublement discriminées en tant que Kurdes, en tant que femmes. Déjà par les politiques du régime Pahlavi, au niveau économique, politique et culturel. Quand on parle sur l'oppression politique, toujours on dit, voilà, il y a combien de morts, il y a combien de blessés, il y a combien de prisonniers politiques. Mais ça, c'est très masculin. Pour les femmes qui étaient, en tant que femmes aussi, elles étaient marginalisées au sein de la société kurde. Leur premier rôle, c'était le mariage en tant qu'épouse, en tant que mère. Comment ces femmes-là, elles pouvaient, par exemple, participer dans la politique, dans la révolution, pas dans la révolution, parce que pour nous, c'était une participation sans précédent. Même avant le femme de PKK, même c'était plus actif que le PKK à l'époque. Donc, par exemple, quand je parle de la oppression politique, je voulais pas parler d'une manière masculine. Voilà, il y avait des hommes qui ont été exécutés, les hommes en prison. Par exemple, j'ai parlé avec une femme villageoise, une femme ancienne pêche-marguée de Comalé. Il avait un passé politique de sa famille, pas elle-même. Donc, elle a dit, quand je me suis mariée avec un homme d'une autre ville de Kurdistan qui s'appelait Mahabad, en disant que, elle disait que la période, l'ambiance de peur de SAVAK, l'organisation de sécurité du régime de Pahlavi, c'était autant que j'avais peur de parler de mon mari, de mon passé politique, le passé politique de sa famille. Elle osait pas d'écouter le radio parce qu'elle pensait que son mari, elle va dénoncer. Et c'est pareil pour son mari. Donc pour moi, c'était très intéressant de parler de ces histoires jamais parlé, jamais discuté.
Il y a aussi une anecdote que vous racontez que moi j'ai trouvé très éloquente d'une femme qui perd une proche lors de son 5e accouchement et la famille de cette femme décédée en couche qui dit bon bah c'est la volonté de Dieu.
Exactement.
Et le médecin qui est politisé au Comalé qui dit à cette femme mais pas du tout, c'est une question d'injustice sociale en fait.
Exactement.
Et c'est ça qui crée l'étincelle, cette phrase-là qui vient réveiller quelque chose chez cette femme et qui lui permet de se politiser. Et je trouve que ça montre bien comment les militants du Comalé étaient présents sur le terrain auprès des populations pour venir expliquer, apporter de la théorie politique pour réussir à politiser les personnes, à prendre conscience des discriminations.
Exactement. Donc voilà, il y avait plusieurs raisons. Donc avant la révolution, ça commence avec l'oppression politique, culturelle, économique. Après les femmes, par exemple, il y avait par exemple toujours on dit les femmes révolutionnaires, mais non, moi je voulais vraiment écouter tout le monde. Il y avait une femme en disant que non, c'était pas le choix de tout le monde, même si pour les femmes on poussait politique parce qu'elles étaient opprimées en tant que femmes au sein de la société kurde. C'est pourquoi il y avait certaines femmes qui disaient que voilà, on voulait sortir de la maison. Toujours on était confiné à la maison en tant qu'épouse, en tant que mère, mais cette histoire, la politique et la révolution, c'était une grande, il a fourni une grande possibilité pour les femmes. Mais après la révolution, comment ils ont choisi Comalé, ça c'est très intéressant, parce que le Comalé aussi, c'était pas non plus très très connu pour les militants. Il y avait une révolution, la politique, il est devenu tout. Tout le monde, il voulait participer dans une organisation politique. Quand j'ai parlé avec les femmes non kurdes de Comalé, c'était intéressant en disant qu'on n'était pas comme les femmes kurdes, on était déjà politisées parce qu'on était attirantes, tout ça. Et ça montre l'injustice, la marginalisation des femmes kurdes. Pour elles, par exemple, certaines femmes, elles pensaient que voilà, les femmes kurdes, elles étaient pas du tout politisées. Mais pour moi, quand j'ai entendu, il y a des ça explique exactement le cas des femmes kurdes à l'époque, parce qu'elles étaient complètement marginalisées. Mais leur choix, c'était pas du tout non politisé. Par exemple, je sais pas, vous avez lu dans une anecdote d'une femme en disant qu'au sein de la famille, il y avait une discussion sur plusieurs partis politiques. Son père, il était pro-do, parti démocratique du Kurdistan. Son premier frère, il était intéressé à un autre parti, organisation d'extrême gauche iranienne, le parti de Fadayan de Peuple. Mais son deuxième frère, il était intéressé au Comalé. Et finalement, comment cette fille, il a compris que le Comalé, c'est mieux pour elle, parce qu'elle voulait participer dans un événement très important politique. Son père et son premier frère, ils étaient contre. Mais son deuxième frère, il a dit, vas-y, viens avec moi, on doit participer ensemble. C'est pourquoi elle a dit Comalé pour elle, c'était pour la plupart des femmes, c'était très inconnu. Mais les femmes, elles entendaient certaines choses. Tout d'abord, par exemple, son frère, elle était très pour l'égalité entre les droits des femmes et des hommes. Donc, elle a dit voilà ce que Comalé il parle, parce que Comalé il n'avait aucune écrit sur l'égalité. Mais elle a dit si mon frère il fait comme ça, ça veut dire voilà c'est l'égalité. Ce qu'il Comalé il insiste là-dessous. Donc, comment les femmes, ils ont connu le Comalé? Par certaines figures très importantes de Comalé, pour échapper la vie routine et voilà, toujours c'était la même chose entre la famille et s'ils avaient beaucoup de chance, juste entre l'école et la maison. Et d'autres choses, par exemple, quand on avait l'attaque de régime contre au Kurdistan iranien, certaines femmes, elles étaient obligées de quitter la région urbaine pour sauver leur vie. Parce que pour la première fois après la révolution, on a vu les femmes qui ont perdu la vie. Ils ont été arrêtées, prisonnières, torturées et finalement, ils ont été exécutées. C'est pourquoi finalement, certaines femmes, par la nécessité, ils ont rejoint le Comalé en tant que marqué dans la lutte armée. Donc, il y avait plusieurs raisons différentes derrière cette participation.
Alors, les familles, hein, vous le dites, elles ne sont pas toujours favorables. Hein, si elles ne sont pas elles-mêmes déjà engagées, elles peuvent être hostiles à cette politisation au sein du Comalé de leurs filles, de leurs sœurs, etc. Quelles sont les barrières auxquelles les femmes ont été confrontées et comment est-ce qu'elles ont réussi à les détourner pour pouvoir intégrer une organisation politique?
Mais pendant la révolution de 1979, avec la révolution, tout le monde voulait participer dans la politique. Pour les hommes, c'était toujours dans la continuation de leur socialisation. Donc, c'était quelque chose de très normal. Si les familles des hommes, ils n'étaient pas d'accord parce qu'ils avaient peur que leur fils, il tombe martyr, il perd la vie. Avec beaucoup d'oppression politique où les familles kurdes, ils ont déjà vécu pendant le régime de Pahlavi. Mais quand on parle avec les femmes kurdes, c'était quoi vos obstacles pendant cette participation? La première obstacle qu'ils parlent, c'est la famille. Pour elles, pour la plupart d'entre elles, c'était la plus importante. Il y avait certaines familles, parce qu'il y avait certaines qui ont rejoint le Comalé en famille. Donc, c'était facile. Même, ils encourageaient leurs filles pour dire que voilà, tout pour rejoindre le Comalé. Mais pour la plupart, c'était pas le cas. Et surtout pour le Comalé, en tant qu'un parti politique d'extrême gauche. Quand j'étais très petite, j'ai pas mentionné dans mon livre, mais c'était une histoire un peu personnelle. Mon père, il peut pas lire, écrire, rien de tout, mais voilà, toujours il était intéressé à la politique. J'entendais toujours quand j'étais très petite, c'est quoi le Comalé? Il disait toujours deux choses, en disant que c'était une partie communiste. Et pour nous, les Kurdes et les conservateurs, d'être communiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne croient pas en Dieu et il y a les relations sexuelles libres. Donc, dans cette situation, moi, je pensais que quelqu'un, comme mon père, il parle de ça. Mais quand j'ai interrogé les femmes et les anciennes Peshmerga, ils disaient que c'était exactement le cas. Donc, il y avait beaucoup de fausses informations derrière les militants de Comala en disant que voilà, ils demandent pas la liberté, ils cherchent pas la politique, ils pèsent surtout pour les femmes, pour les hommes toujours, il n'y a pas beaucoup d'obstacles à ce niveau-là, mais pour les femmes, surtout pour les femmes, voilà, ils sont là pour chercher un mari, pour chercher une liberté, par exemple, sexuelle. C'est pour ça, les familles aussi, ils voulaient pas que leur fille, par exemple, il y avait une jeune fille en disant que mon père, il était d'accord pour sa participation politique, mais il a dit, jusqu'à dernière minute, il a insisté qu'elle participe avec dans le parti démocratique de Kurdistan, pas pour le Comala. Parce qu'il a dit, avec cette participation, il y a un grand risque pour toi et après, on va perdre la réputation de la famille. Donc, il y avait beaucoup d'obstacles. Tout d'abord, la famille, il y avait des filles en disant qu'on était torturés, on était battus physiquement, mais on a résisté contre la famille. Tout d'abord la famille, après la société. Par exemple, il y avait certains en disant qu'on était la famille. Finalement, ils ont laissé leur fille de participer dans la politique, mais les entourages dans la ville, ah votre fille, elle était avec qui, tout ça. Donc il y avait une pression de la société aussi. Et troisième, c'était la pression de l'organisation elle-même aussi. Parce que les femmes comme les hommes, ils n'avaient pas la même expérience. Il y avait beaucoup de barrières contre les femmes. Donc vraiment, pour les hommes, on pose jamais votre famille comment il a réagi. Ils ont dit quoi? Mais pour moi, personnellement, j'ai dit voilà, je dois commencer de leur famille. Qu'est-ce qui se passe? Parce que même aujourd'hui, c'est très difficile pour la famille. Si même aujourd'hui, s'il y a un homme, il est en prison, la famille l'a dit voilà, notre fils, c'est un grand héros. Mais même aujourd'hui, c'est pas très facile pour les familles parce qu'il y a la question de viol. C'est la question de perdre la réputation, honneur de la famille. Donc, c'est encore difficile. Même si la société est complètement changée, c'est pas comme avant, mais encore c'est difficile. C'est pourquoi, pour moi, même s'il y avait beaucoup de difficultés pour les femmes, mais pour moi, en tant que femme kurde, c'était un grand révolutionnaire, cette participation. Il a changé beaucoup de choses au sein de la société kurde.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous montrez comment, compte tenu de tout ce que vous venez d'évoquer, les femmes mettent en place des stratégies pour que leur famille puisse accepter leur politisation au sein du Comala. Je pense à deux choses plus particulièrement. Le fait que leur participation, dans un premier temps, va davantage être dans les manifestations que dans les réunions, parce que les manifestations étant publiques, on voit qu'elles ont un comportement qui est considéré comme adapté, et elles évitent de se retrouver dans un espace clos de la réunion où on pourrait supposer qu'elles aient eu un comportement qui pourrait porter atteinte à l'honneur de la famille. Donc ça, c'est la première chose. Et seconde, c'est le fait que elles se mettent à s'organiser aussi en non-mixité. Elles vont commencer à établir, à mettre en place des comités où elles ne sont qu'entre femmes pour éviter que des rumeurs viennent entacher leur réputation et par ricochet l'honneur de la famille.
Exactement, ça aussi, c'était très intéressant. Par exemple, les femmes, voilà, elles étaient partout, dans les manifestations, dans les grèves, ils faisaient tout, côte à côte avec les hommes, dans l'espace urbain. Parce que moi, quand je parle de, si vous regardez le livre, c'est trois parties. La première partie, il parle avant la révolution. Deuxième partie, il parle sur la participation des femmes kurdes dans l'espace urbain. Et troisième, on parle sur la participation politique des femmes kurdes dans la lutte armée. C'est pourquoi, pendant la deuxième partie, quand on parle sur leur participation dans l'espace urbain, ils font tout. Mais voilà, toujours on dit la révolution, la guerre, il change beaucoup. Il casse beaucoup de clichés contre les femmes, la division sexuelle entre le travail entre les hommes, les hommes, les femmes. Mais il casse pas tout. Il reste toujours pas. Il y a certaines choses qui sont difficiles à briser, à surmonter. Par exemple, surtout par exemple, comme vous avez dit, le réunion. Par exemple, il y avait des femmes des hommes très révolutionnaires, mais encore, il disait, voilà, on doit respecter parce qu'il y a certaines choses, on ne peut pas le faire. C'est pourquoi, petit à petit, il y avait des femmes, comme le cas d'Algérie. Après la révolution, les femmes, au fur et à mesure, elles ont retourné au sein de foyer. C'était exactement le cas en Iran, au Kurdistan. Après la révolution, voilà, Dans les manifs, c'est pas grave. Dans les grèves, c'est pas grave. Dans l'espace public, c'est pas grave. Mais dans la réunion, dans l'espace privé, semi-privé, vous n'avez pas le droit parce que ça va, avouer que voilà, toujours voilà, on respecte pas le norme dominant de la société. C'est pourquoi les femmes, voilà, ils ont utilisé plusieurs, moyens pour faciliter leur participation politique, comme le institution démocratique des femmes non mixtes dans chaque ville où il y avait des possibilités, il y avait des femmes enseignantes, il y avait des élèves, donc ils ont créé leur propre institution démocratique. Ou par exemple contre la famille, par exemple il y avait une fille en disant que même si j'étais battue par ma famille, mais je faisais toutes les tâches des ménagères, comme ça finalement leur parents, ils disaient, voilà, t'as tout fait, c'est pas grave, tu peux participer, mais la nuit, tu dois retourner à la maison. Donc, il y avait beaucoup de vraiment stratégies au sein de l'espace urbain pour un petit peu faciliter la participation politique des femmes kurdes.
Ce que votre livre montre bien aussi, c'est qu'il y a une vraie évolution qui s'opère. C'est-à-dire que quand les femmes intègrent le Comelé, dans les premières années, elles ont surtout un rôle de sympathisante, de soutien. Alors évidemment, on va en parler plus longuement, il reste une division très genrée. Néanmoins, il y a quand même une vraie évolution en interne, puisque les femmes finissent par accéder au statut de Peshmerga, qui dans un premier temps ne leur est pas accordé. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter comment se fait cette évolution ?
Et c'était une évolution par la nécessité. Une guérilla, c'est très important pour nous. Ils sacrifient leur vie pour le cause kurde, pour la société kurde, donc c'est très valorisé. C'est pourquoi c'était très important pour les femmes. Mais par exemple, au Kurdistan d'Irak, parce que j'ai vu un entretien avec une ancienne commandante de Kurdistan irakienne, il disait que non, on n'acceptait pas les femmes. Ils étaient là en tant que mari, en tant qu'épouse, en tant que mère, mais pas en tant que peshmerga. Et au début de mon travail, moi je voulais dire que le Comelé c'était la première organisation politique qui a accepté les femmes. Ils ont dit non, on avait déjà la participation politique des femmes kurdes au Kurdistan d'Irak. Mais quand j'ai vu, non, ils étaient là juste en tant qu'épouse, pas en tant que peshmerga. C'était plutôt une façade. Donc, c'était très difficile. Là-bas, ils n'ont pas accepté parce qu'ils ont dit, on est parmi les villageoises, donc ils n'acceptent pas cette participation. C'est la dernière base populaire pour les femmes kurdes, pour les Kurdes, donc on ne peut pas accepter. Mais qu'est-ce qui se passe au sein de Comelé? Au sein de Comelé, dans l'espace urbain, les femmes, elles participaient partout. Si vous voyez le livre, la deuxième partie, vraiment, on voit une participation, même s'il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup d'allers-retours, mais finalement, les femmes, elles sont partout, côte à côte avec les hommes. Mais quand on a la lutte armée, à la fin de, par exemple, le mois de mai 1980, le Comelé, il n'accepte pas les femmes. Même aujourd'hui, par exemple, quand le Comelé, les anciens dirigeants de Comelé, ils parlent sur l'égalité entre les droits des femmes et des hommes, en disant, ah, vous voyez, on a accepté les femmes en tant que peshmerga. Pour nous, c'est un signe de respecter l'égalité entre les droits des femmes et des hommes. Et la plupart de la société, ils acceptent ça. C'est vrai, à l'époque, c'était très difficile, mais on ne connaît pas le détail. Qu'est-ce qui se passe pendant cette période? Et comme cette recherche montre, les récits des femmes montrent, c'était pas du tout comme ça par hasard et juste d'un coup, voilà, on a besoin de peshmerga, tout ça, on accepte les femmes. C'était étape par étape. Et au début, le Comelé, certains dirigeants de Comelé, ils étaient très réticents par rapport d'admission des femmes dans la lutte armée. Parce que, voilà, on dit la révolution, la guerre, ils changent tout, ils changent pas tout. Il change beaucoup de choses, mais pas tout. C'est pourquoi toujours il y avait certains qui insistaient sur la division sexuelle de travail en disant que les femmes, elles sont faibles et fragiles, ils ne peuvent pas participer dans la lutte armée. Et d'être peshmerga, c'était très masculin. C'est la lutte armée, elle défendait toujours de sa masculinité et non, son non-mixité. C'est pourquoi c'était très difficile, mais finalement, beaucoup de femmes, parce qu'il y avait certaines femmes qui ont quitté la ville, l'espace urbain, parce qu'ils étaient en danger, mais le Comelé, au début, il n'a pas accepté en disant que non, il n'y a pas de place pour vous dans l'espace montagneux, dans la zone rurale, vous devez retourner dans l'espace urbain. On a besoin de vous là-bas, pas ici. Ils étaient obligés de retourner. Mais finalement, quelques mois plus tard, parce que la clandestine, comment dire, l'activité en cachet clandestinité, il était plus possible. Il y avait beaucoup de femmes, des hommes, ils ont été arrêtés, exécutés. C'est donc, chaque jour, il y avait beaucoup de femmes, il y avait beaucoup d'hommes qui étaient obligés de quitter la ville. À partir de cette période, même, il y avait des familles qui étaient contre la participation politique de leurs filles, de leurs voilà, des entourages. Mais à partir de ce moment, parce qu'il y avait une information en disant que si les femmes, la République islamique arrête les femmes, c'est pas qu'aux exécutions, il y a des questions de viol aussi. Il y avait cette information pour faire peur aux familles aussi. Elle existait bien sûr le cas comme ça, c'est pas pour toutes les femmes, mais elle existait. C'est pourquoi il y avait certaines familles, ils poussaient leurs filles pour quitter l'espace urbain aussi. Donc, et finalement, il y avait beaucoup de femmes dans l'espace, dans la zone rurale, dans l'espace montagneuse. Finalement, Komalé, il était obligé d'accepter les femmes. C'était une nécessité et il y avait bien sûr, il y avait certains dirigeants aussi, ils étaient pour la participation politique des femmes dans la lutte armée. Et finalement, il y avait des femmes aussi qui résistaient, ils voulaient prendre l'arme, ils voulaient participer dans la vie politique parce que c'était très très valorisé aussi. C'est pourquoi tout ça, toutes ces raisons, finalement le Komalé avec une période de réticence, il a finalement accepté la participation des femmes dans la lutte armée aussi.
Il y a un exemple que vous donnez que moi je trouve très éloquent, c'est le fait que beaucoup d'hommes peshmerga n'ont pas très envie que des femmes deviennent peshmerga à leur tour, parce qu'ils ont effectivement cette croyance que ça vient dévaloriser le statut de peshmerga, que ça vient déviriliser quelque chose qui pour eux apporte de la virilité, qui est très considéré. Et du coup, les femmes, on va leur donner des armes de moindre qualité que celle qui est donnée aux hommes, parce qu'on préfère garder ce qu'il y a de meilleur pour les hommes. On les discrimine même à ce niveau-là. Et en fait, le paradoxe veut que du coup, on leur donne des armes de moindre qualité qui sont plus lourdes.
Exactement.
Donc en fait, on les considère comme faibles, incapables d'avoir la force physique des hommes, alors que de fait, par cette discrimination, on leur impose des conditions de travail qui sont plus difficiles que celles des hommes.
Exactement. Et en plus que ça, ils étaient obligés de travailler dans plusieurs domaines. C'est pour ça que leur travail n'était pas valorisé. Parce que, par exemple, une heure ici, deux heures ici, dans les opérations, ils acceptaient pas au début, ils n'acceptaient pas facilement les femmes. On pense que si on parle de cette discrimination, c'est impossible, ça va dévaloriser la participation politique des femmes. Même les femmes aussi le cachent, mais on doit le montrer que la participation des femmes kurdes à tout niveau, c'est différent. C'est pas la même expérience des hommes. C'est exactement dans le cas des femmes komalées, on montre ça aussi. À quel point, toujours on dit l'égalité, mais à quel point ces expériences étaient différentes. Par exemple, il y avait une femme en disant qu'on n'avait pas le droit de faire une erreur. Ça, c'était très intéressant. C'est vrai pour les hommes, par exemple, ils pouvaient dire on est fatigué, on a soif, on a faim. C'était quelque chose de très normal. Voilà, ça vient c'est les raisons extérieures parce que la condition c'est très difficile. Donc il y avait une interprétation extérieure pour la fatigue des femmes, des hommes, mais pas pareil pour les femmes. Les femmes, par exemple, ils disaient dans le récit, c'est mentionné dans le livre, en disant que, par exemple, plusieurs heures d'opération contre l'État, la République islamique, après, contre le peshmerga de Parti démocratique du Kurdistan d'Iran, on était très fatigués, encore on était obligés de marcher plusieurs heures dans les montagnes, dans les villages, mais on avait peur de dire on est fatigué. On avait peur de monter sur un cheval ou d'autres choses parce que c'était un signe de faiblesse pour toutes les femmes. Si on disait on est fatigué, on est soif, et c'était quelque chose de très normal à l'époque, très très difficile, et en plus de guerre entre la Komalé et la République islamique, le Komalé et le PDKI, on avait la guerre entre l'Iran et l'Irak. Et de temps en temps, on avait le bombardement. Les peshmerga étaient très fatigués, et après il y avait un bombardement aussi. Imaginez-vous, dans cette situation, les femmes, elles n'avaient pas le droit de dire « je suis fatiguée, j'ai soif, j'ai faim ». Parfois, ils disaient que c'est très marquant, ils disaient que quand on montait sur la montagne, on était obligé de cacher notre... Quand ils soufflaient tout ça, ils étaient obligés de tout cacher.
Donc, vous expliquez bien qu'elles développent des stratégies pour pas qu'on voit qu'elles sont hors de souffle à cause de l'effort, alors que tout le monde l'est. Mais c'est vraiment, je reprends les termes que vous avez employés, c'est-à-dire que quand les hommes sont hors de souffle, on prend la cause comme extérieure parce que en fait les conditions sont difficiles, donc de fait ils sont essoufflés, alors que pour les femmes, elles ne peuvent pas se permettre d'être essoufflées parce qu'on va considérer que c'est interne à leur constitution et qu'elles n'ont pas la constitution qui leur permet de fournir cet effort.
Exactement. Et quand même en Suède, j'étais en train de parler avec, interroger une ancienne homme peshmerga. Je dis, vous voyez que vous, à l'époque, comment vous voyez la participation des femmes? Elle dit oui. De temps en temps, elles étaient très fatiguées. Je dis, et vous étiez pas, vous étiez jamais fatiguées? Si, si, si. Mais donc, même aujourd'hui aussi, ils pensaient comme ça.
Alors malheureusement, on va pas avoir le temps de tout développer parce que dans votre troisième partie, vous décrivez très bien comment le patriarcat se met en œuvre au sein même du Comalé, notamment par rapport à différentes thématiques qu'on a déjà abordées. Je vais un peu les citer, puis vous choisirez celles sur lesquelles vous avez envie de réagir. Donc on a parlé déjà un petit peu de la division sexuelle du travail. On n'a pas encore abordé la question de comment est gérée la question du mariage. Mmh. Voilà les pressions aussi que subissent les femmes pour accéder à des demandes de mariage qui peuvent être un peu pressantes. La place qu'on laisse aux enfants qui naissent de ces mariages et de toutes les conséquences que ça peut avoir. Et puis comment on vient parfois aider les femmes, je pense notamment à la question vestimentaire où on va leur permettre de porter les habits des hommes, et comment à contrario sur d'autres choses on va contraindre les corps, je pense plus particulièrement aussi à des contraintes qu'elles s'imposent elles-mêmes, qu'elles ne souhaitent pas montrer qu'elles ont besoin d'aller se soulager, qu'elles vont se cacher très loin pour faire leurs besoins, qu'elles ne vont pas solliciter des protections périodiques à la planification générale qui vient livrer le matériel dont les combattantes et les combattants ont besoin. Vous évoquez aussi à un moment donné un exemple très précis et éloquent sur le fait que après de longues heures voire jours de marche, les combattantes et combattants tombent sur un lac et qu'il y a ce réflexe des hommes d'aller se baigner, et qu'en fait les femmes restent interdites parce qu'évidemment elles en ont envie, elles puent, elles ont transpiré, elles sont fatiguées, elles ont envie de se rafraîchir, et en fait elles n'osent pas. Et mais il y en a une qui ose. Voilà. Et donc c'est aussi toujours cette histoire de comment les femmes s'imposent dans cette structure qui met en place une hostilité patriarcale de façon consciente et inconsciente.
Exactement. Donc, il y avait beaucoup d'exemples vraiment pour les femmes. C'était autre chose. Par exemple, vous avez mentionné le cadeau mariage. Par exemple, aujourd'hui, quand on parle sur la participation des femmes kurdes au sein de PKK, donc la vie privée, c'est absent. On n'a pas la vie privée. Mais c'est intéressant, au sein de Comalé, on a, neutraliser fausses informations sur les Comaliens en disant qu'ils sont communistes, ils ne croient rien de tout. Il y a une imposition de mariage, pas vraiment officiellement, mais par exemple, les femmes, elles étaient déjà pas nombreuses par rapport des hommes, mais pour dire que voilà, on respecte les normes dominantes de la société pour neutraliser ce genre d'informations sur le Comalé. Donc, il y avait une imposition de mariage. Les femmes, la plupart des femmes, je peux dire la majorité, ils se sont mariés pendant cette période. Vraiment, il y avait quelqu'un, il disait, pendant 3 jours, il avait 20 propositions de mariage. Donc, en lieu de dire que je suis une peshmerga, j'étais plutôt comme un objet sexuel pour me marier avec quelqu'un, pour soulager un homme, pas moi-même. C'est pourquoi il y avait un soulagement après le mariage. Chaque année, le Comalé est en train de reculer vers le Kurdistan d'Iran. Ils étaient en train de tout perdre. C'est pourquoi la question de fatigue, vraiment, il y avait plusieurs heures, ils avaient rien à manger, rien à boire. Juste pour ça, il y avait certains qui se sont rendus à la République islamique. Et quand ils étaient mariés, leurs femmes aussi, ils étaient obligés de leur rendre à la République islamique. Il y avait certaines femmes qui ont résisté en disant que même si mon mari il va se rendre, mais moi je reste ici. Mais c'était très rare. C'est pourquoi la question de la famille, c'était très très important au sein de Comalé. Il y avait beaucoup de résistance, par exemple. Je disais par exemple s'il y avait de violences conjugales. Comme pourquoi est-ce que vous avez réagi ou pas? La plupart ils ont dit non. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit on était dans une situation très très difficile. Chaque jour, on était en train d'écouter. Est-ce que notre mari il a été tué? Notre frère, je sais pas, notre fils aussi même. Il y avait une femme, il a perdu son fils aussi. C'est pourquoi dans une situation très très difficile, il y avait pas beaucoup de objections en disant qu'on n'est pas d'accord. La situation c'était pas comme aujourd'hui. Par exemple, pour le PKK, ça fait plus de 40 ans. Il y a beaucoup de situations qui a été changées. Mais pour le Comalé, il y avait pas beaucoup d'expérience, il y avait pas beaucoup de possibilités.
L'impression que j'ai eue en vous lisant, c'est que il y avait vers l'extérieur une démarche qu'on pourrait qualifier de soutenante pour les femmes, mais que c'était plus difficile à mettre en œuvre en interne, puisque forcément ça venait questionner des rapports de genre en interne qui pouvaient induire, si on allait jusqu'au bout d'un processus de déconstruction des normes de genre, induire une perte de privilèges pour les peshmerga hommes. Et du coup, l'impression que j'ai eue en vous lisant, c'est que finalement, le Comalé était plus féministe vers l'extérieur qu'en interne. En interne, il y a tout ce que vous venez de décrire en termes de discrimination liée à la question du mariage, liée à la question de la division sexuelle du travail, etc. Mais en externe, le Comalé, et notamment les femmes, pouvaient être amenées à intervenir dans les villages et plaider la cause de femmes qui étaient en difficulté au sein de leur foyer.
Exactement, c'est ça ce qu'on voit en lisant cette recherche. Voilà, on voit beaucoup de récits en disant qu'on a aidé même les hommes aussi. Ils ont aidé les femmes villageoises contre la polygamie, contre la violence conjugale. Il y avait certaines femmes qui ont quitté leur famille pour rejoindre le Comalé en disant que voilà, là-bas, il y a un respect pour les femmes, le droit des femmes, égalité. Mais quand on voit au sein de Comalé, bien sûr, c'est pas le cas de tout le monde. Le Comalé lui-même aussi, il a changé beaucoup de choses. Par exemple, sur la question de polygamie. J'ai parlé d'une histoire d'une femme, par exemple, l'organisation, elle n'a pas accepté le polygamie. Par exemple, si, par exemple, il y avait un cas de violence conjugale, par exemple, on avait deux crimes d'honneur, deux femmes peshmerga, ils ont perdu la vie. Les deux, ils savaient que tout de suite, il y a une punition, tout de suite, c'est pour ça, ils ont quitté, ils ont fui, quitté l'organisation. Ils ne savaient pas que l'organisation, ils ne pardonnent pas ce genre de crime. C'est pourquoi il y avait certaines choses, c'est un avancement pour le Comalé. Par exemple, déjà après la discrimination contre les femmes, il a été diminué, par exemple, au fur et à mesure. Les femmes, elles étaient partout. Il y avait certaines femmes, elles sont devenues le commandant armée, politique, à l'époque, même si c'était pour le petit groupe. Mais pour l'époque, c'était énorme. Mais Comalé, il ne pouvait pas contre toutes les discriminations ou pour une égalité totale entre les droits des femmes et des hommes. C'est pourquoi à la fin de cette recherche, je dis le Comalé, il est en train d'aller-retour, faire un aller-retour entre les normes dominantes de la société et le progressisme qu'il insistait là-dessous. Parfois il pouvait, parfois non.
Alors pour finir, je voudrais, si vous le voulez bien, qu'on prenne le temps de lire quelques extraits de votre ouvrage ensemble, que j'ai sélectionné, sur lesquels je voudrais vous faire réagir. Alors le premier extrait, c'est page 171. « Les femmes ne jouent dans l'imaginaire collectif kurde que le rôle de victime, toujours en deuil ou en souffrance, ou de mères qui sacrifient leur fils pour la cause kurde. Ce n'est qu'en prenant enfin les armes qu'elles finissent par bousculer cet imaginaire essentialiste. » Les femmes peshmerga du Comalé sont les actrices de ce changement.
Exactement, voilà ce que c'est mérite pour ces femmes. Même si il y avait une défaite pour le Comalé, même pour les femmes aussi aujourd'hui exilées en Europe, ils ont un peu dessous sur ce qu'ils ont vécu et après, voilà, ils se comparent avec les femmes de guérilla au Kurdistan de Syrie. Ils sont bien médiatisés, ils sont considérés comme un héros, mais ils sont dans l'oubli. C'est pourquoi ils regrettent beaucoup. Mais pour moi, en tant que femme kurde d'Iran, ils ont fait beaucoup de choses pour la société. Si aujourd'hui je suis là pour parler des droits des femmes, moi, c'est l'héritage de leur militantisme, de leur activisme, de ce qu'ils ont vécu à l'époque. Aujourd'hui, on voit s'il y a une histoire. Aujourd'hui, par exemple, pour le morte étatique de Jina Amini au Kurdistan d'Iran. On avoue, par exemple, toujours les Iraniennes, ils voyaient les femmes kurdes en tant que victimes, très passives, toujours parce que dès qu'il y a une violence faite aux femmes kurdes, c'est très médiatisé en Iran. C'est une vision très raciste. Mais on voit jamais, par exemple, cette résistance. Mais cette résistance, cette participation, elle est très, toujours vivante. On voit, parce que même si ils ont pas connu au public dans le mémoire collective des Kurdes, mais ces dernières années, ils ont commencé, par exemple, même le Comalé aussi, maintenant, il sait qu'à l'époque, ils ont fait quelque chose de très important. La participation politique des femmes, c'était très important. On voit des vidéos, des images. Il y a d'anciennes peshmerga qui parlent avec leur nièce, leur neveu, tout ça. Donc, ils ont réussi un petit peu de transmettre cet héritage. C'est pourquoi on dit que la présence des femmes kurdes pendant le funérail de Jina Amini, c'était pas quelque chose par hasard. Il y avait un héritage, c'était le héritage de cette participation, et c'est les femmes kurdes, c'est pas que les victimes de violence. Ils sont en train de jouer leur rôle dans l'histoire, même s'ils sont dans l'oubli, mais toujours il y a une trace, on voit cette trace, et aujourd'hui, toujours elle existe parmi les Kurdes, dans la société kurde, surtout pour les femmes kurdes d'Iran.
Alors le passage suivant, c'est un passage qui me tient particulièrement à cœur. Il est un peu long, mais il est important. Si le physique et la beauté des femmes étaient auparavant les seules sources d'inspiration des poètes, cela change après leur apparition dans la branche armée. Ils dressent le portrait élogieux des combattantes du Comalé en exaltant leur courage et leur force de caractère. L'un de ces poèmes témoigne de ce changement. Et donc vous citez un extrait de ce poème. Avant votre apparition, femme des tranchées, je n'avais Dieu que pour la beauté de vos colliers. Mes poèmes ne faisaient que décrire l'odeur de clous de girofle de votre peau et la poudre qui orne vos visages. Puis, soudain, vous êtes apparue, vous, femme des tranchées, telle des étincelles de feu. À partir de ce jour, les femmes de mes poèmes apparaissent, fusils sur l'épaule.
Exactement, c'est ça, ce qu'on voit, voilà. Toujours dans le folklore kurde, voilà, c'est la beauté des femmes kurdes, c'est très important. Mais aujourd'hui, en voyant les femmes guerrières de Kurdistan, de Rojava, de Bakur, on voit que, voilà, donc on avait une autre histoire. Petite et petite, la société est en train de parler des femmes de Comalé. C'est pourquoi, comme il montre dans ce poème, ces histoires, ça existe. Et aujourd'hui, ça a changé beaucoup de choses. Ça, c'est pas marqué à l'époque, ils ont changé le, parce qu'à l'époque, ce poète kurde aussi, il était en danger. C'est Şerko Bekas. C'est un poète très, très connu dans la société kurde. Donc, c'est lui qui a composé ce chanson pour les femmes kurdes. C'est pourquoi, voilà, pour moi, c'était un grand changement au sein de la société kurde, même dans le poème, dans le récit. Et c'est pourquoi je dis, il faut parler de cette histoire. Sinon, vraiment, on perdait une mémoire héroïque des femmes kurdes, et c'était un grand dommage. C'est pourquoi moi je dis, avant la disparition des femmes, on doit écrire cette histoire. Par une pensée patriarcale, ils ont marginalisé les femmes kurdes. C'est pourquoi l'histoire, on peut cacher, mais on peut pas le cacher pour toujours. Elle est en train d'émerger au sein de la société kurde, et ça, c'est important.
La raison pour laquelle j'ai sélectionné cet extrait, c'est que ça arrive souvent que je lise des auteurs hommes, notamment occidentaux, qui écrivent sur les Kurdes, plus particulièrement sur la révolution au Rojava, et qui, quand ils décrivent des femmes, se mettent toujours à les décrire physiquement et à émettre un avis sur ce qu'ils pensent ou pas de leur beauté. Et moi, j'ai un peu l'impression que quand ils écrivent ainsi, ils passent à côté d'un message essentiel de la pensée kurde, c'est que les femmes sont des combattantes. Et les ramener toujours à leur beauté, à leur physique, c'est passer vraiment à côté d'un des messages les plus importants de la révolution kurde. Et j'ai trouvé du coup cet extrait très éloquent, parce que il montre bien que l'engagement des femmes, c'est aussi une façon d'inviter les hommes à changer leur regard, à cesser de voir les femmes uniquement comme un objet de désir et à enfin les considérer comme des camarades.
Exactement. Pendant la période au Kurdistan de Rojava, on voyait dans les médias occidentaux vraiment les femmes très belles, voilà, comme ça. Donc, toujours, ils pouvaient pas séparer cette image comme femme qu'il est en train de changer quelque chose au sein de sa société contre Daesh, contre une force très, très réactionniste. Mais toujours, ils se focalisaient sur les femmes, belles femmes, tout ça.
Alors, l'extrait suivant, il est très court et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai choisi. Donc c'est une femme qui témoigne. Chaque signe de ma faiblesse pouvait être considéré comme le signe de la faiblesse de toutes les femmes. On a évoqué ensemble le fait que les femmes cachent leurs difficultés parce qu'elles ont peur d'être stigmatisées à titre personnel. Mais ce que dit cet extrait-là, et c'est quelque chose qu'on connaît en tant que femme féministe, c'est le fait que, en tant que femme, quand quelqu'un nous juge à travers nous, comme on est un groupe essentialisé, il juge l'ensemble des femmes. Et donc, du fait de la discrimination qu'on subit, on a une obligation d'exemplarité, parce que si nous on est jugés, on sait qu'à travers nous, l'ensemble des femmes vont être jugées. Et donc, ça met une pression sur les épaules des femmes qui est une pression quasi intenable.
Exactement. Et imaginez-vous, il y avait beaucoup de femmes qui étaient enceintes. Plusieurs mois, jusqu'à dernier mois de grossesse, ils étaient obligés de cacher leur grossesse parce que voilà, il y avait des gens qui tombaient martyrs et les gens qui perdaient la vie. Donc, ils tombaient enceintes. Donc, même pendant cette période, ils étaient obligés de tout cacher. C'est pourquoi, imaginez-vous à quel point ils étaient sous la pression et une petite erreur, une petite signe de fatigue des femmes, comment il a été interprété pour et généralisé pour d'autres femmes.
L'extrait suivant, c'est une thématique qu'on a déjà un peu abordée par rapport à la question des violences domestiques. Une femme peshmerga battue ou martyrisée dans son couple peut être considérée comme une ratée, une bonne à rien, incapable de s'affirmer. Les femmes qui réussissent, dans la douleur, à casser leur image de faible femme en prenant les armes, ne veulent pas revenir à l'époque où elles étaient considérées comme des personnes faibles, peureuses et en détresse. Elles préfèrent taire ce qu'elles subissent afin de préserver leur image de révolutionnaires prêtes à tout pour aider les autres. Et je trouve que cet extrait montre bien à quel point pour les femmes, dire ce qu'on subit et du coup dire le statut de victime, en fait, c'est impossible parce que ça revient à reprojeter sur ces femmes une catégorie dont elles essaient de sortir. Et quelque part, du coup, ça vient renforcer la loi du silence.
Exactement, c'est ça. C'est pourquoi la plupart des femmes, ils ne voulaient pas casser cette image. Même s'ils savaient que leur situation, il y a beaucoup de violence conjugale, mais ils se taisaient pour dire que voilà, sinon on va casser l'image de femme en tant qu'héros, en tant qu'une combattante, en tant qu'une peshmerga. C'est pourquoi voilà, il y avait une pression double sur les femmes et c'est pour ça la plupart, ils ne réagissaient pas contre la violence.
Alors, on va finir avec une toute dernière citation d'une femme que vous avez interrogée, qui s'appelle Asrine, et qui dit « Toutes ces années où les femmes ont lutté sur la scène politique ont finalement donné des résultats. Pas forcément des résultats politiques ou sociaux, mais plutôt individuels. Malgré la situation inférieure de presque toutes les femmes peshmerga, et en dépit de tous les clichés de faiblesse, de fragilité et d'impuissance, elles ont fini par comprendre qu'elles possédaient un vrai potentiel. » On avait nié ou minimisé leurs capacités, mais elles ont fini par comprendre qu'elles étaient capables d'accomplir quelque chose.
Exactement. Là, par exemple, moi, je dis, il y a certains, ils me demandent, c'est quoi le résultat de la participation des politiques des femmes kurdes, par exemple, Kurdistan de Turquie, Syrie, l'Iran. Moi, je dis, la seule chose, même si jusqu'à maintenant, les Kurdes, ils n'ont pas obtenu beaucoup de choses, toujours, il y a une lutte en cours. Mais, par exemple, sur le cliché, parce qu'il y avait un cliché très, très fort sur les femmes, en disant, ils sont faibles, fragiles, tout ça. Mais vraiment, ils ont réussi de casser ce genre de cliché. Pour moi, ça existe cette expérience, ça existe cet héritage et bien sûr, ça change la société.
Alors, j'espère que cette interview aura donné envie aux personnes de vous lire. Donc, il y a deux possibilités pour vous lire. Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage qui a été publié à l'Harmattan. Donc, Genre et militantisme au Kurdistan d'Iran, les femmes kurdes du Komala, 1979-1991. Donc, c'est un livre qui fait un peu plus, enfin, presque 300 pages. Et pour les personnes qui ont moins le temps, on peut aussi les inviter à vous lire dans Études kurdes. Donc, c'est une revue semestrielle de recherche, le numéro 15 de décembre 2022, qui a pour thème genre et politique dans les espaces kurdes et dans lequel vous avez fourni un article. Voilà, moi je vous l'ai déjà dit, mais je le répète au micro. C'est vrai que quand j'ai pris connaissance du titre de votre ouvrage, je me suis dit, oulala, on risque d'être sur un sujet typique de thèse, avec un sujet très spécialisé, sur une recherche très focalisée, sur une période donnée, ça risque d'être un peu fastidieux à lire. Et je dois dire que ça n'a absolument pas été le cas. J'ai eu un très grand plaisir à vous lire. C'était absolument passionnant. Donc vraiment, j'invite les personnes à acheter votre livre et à le lire, parce que au-delà effectivement du fait que de fait c'est un livre sur une thématique très précise, je trouve que vraiment votre ouvrage montre comment même dans une institution, une structure, un parti politique qui pense à la place des femmes, le patriarcat est tellement fort qu'on le reproduit nécessairement en interne. Et je trouve que votre ouvrage donne vraiment des outils pour essayer de décrypter comment le patriarcat se déploie au sein des institutions militantes. Et en plus de ça, bah, il permet un petit peu de rétablir l'importance de la place des femmes au sein du Comalé, qui, comme très souvent, a été invisibilisée par une histoire qui est écrite par les dominants. Donc c'est important de rendre justice à cette place qui a été celle des femmes au sein du Comalé. Donc merci beaucoup pour votre travail et puis merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci pour vous aussi.
Lutte kurde, ici et ailleurs, le podcast.